carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
L'Égypte à l'opéra. Bonjour Michel de Wachter.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, chercheur au CNRS et vous enseignez à la faculté de la Sorbonne. Vous avez composé un ouvrage magnifique qui s'intitule « L'Égypte et l'opéra » de Jean-Baptiste Lully à Philippe Glass, un ouvrage qui a été publié à l'occasion d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Carcassonne en 2004 et au Musée des Beaux-Arts de Roanne jusqu'en 2005. Donc cet ouvrage fourmille de détails sur un très grand nombre d'opéras qui s'inspirent parfois le temps seulement d'un chœur ou d'une scène, de l'Égypte. Nous allons donc parler de cet inconscient au début égyptien qui devient, plus le temps passe, plus les références à l'Égypte deviennent précises et on va parler ensemble de ce que vous appelez, vous, de l'égyptomanie, de l'égyptophilie. Dans l'opéra. Pour l'égyptologue que vous êtes, comment est-ce que vous vous êtes intéressé à l'opéra? Comment est venue cette démarche?
Il y a deux points de départ. Très tôt, je me suis intéressé au cabinet de curiosité et à définir la place de l'Égypte dans les cabinets de curiosité, principalement des XVIIe et XVIIIe siècles.
Dans lesquels figurent des momies, des crocodiles?
Oui, des médailles d'abord, des momies, des bas-reliefs, des papyrus, et très vite, je me suis aperçu qu'il fallait autant travailler sur les originaux que sur les portefeuilles de gravure. Et ce sont les portefeuilles de gravure qui m'ont amené à regarder les artistes, leur voyage en Italie, leur voyage, ça s'appelait pas encore le Grand Tour, mais en Méditerranée. Et très vite, j'ai vu aussi, ce qui n'était pas négligeable, c'était les portefeuilles d'artistes et de costumiers des spectacles autour de Venise, où l'opéra a pris naissance, et d'autres grandes productions. Et un jour, je suis tombé tout à fait par hasard pour la flûte enchantée, pour la mise en scène de 1816 à Munich, sur l'utilisation d'une bandelette de momie avec une inscription, et je ne sais pas encore aujourd'hui quelle est la bandelette qui a été copiée, mais ce dont je suis sûr, c'est que Quaglio, pour ce décor de la flûte enchantée, a copié une bandelette qui est authentique et qui existe. Donc, je m'étais dit, comme je passais une partie de mes recherches à retrouver la trace d'antiquité égyptienne, parce que ce qui m'intéresse, c'est quand cette pièce est sortie de son contexte en Égypte. Et après, mais c'est tout aussi intéressant, quand elle est sortie au XVIe ou au XVIIe, c'est son histoire moderne. L'histoire moderne, ça peut être la pièce chez les francs-maçons et dans des mises en scène. Mais c'est aussi dans des spectacles. Et c'est comme ça que l'opéra et le théâtre se sont imposés à moi. Et puis aussi, c'est parce que j'ai eu la chance, tout jeune, d'entendre Birgit Nilsson à la Scala de Milan. Et le frisson, enfin l'intérêt pour l'opéra est né. Et puis après, comme les gens de ma génération, nous avons découvert Luchino Visconti et il suffit de se laisser porter.
Vous allez nous porter dans ces différents décors d'opéra, puisqu'il s'agit beaucoup de décors d'opéra et aussi de personnages qui sont inspirés ou à un moment se trouvent dans une situation où l'Égypte arrive subrepticement et repart aussitôt. On va venir un petit peu plus dans le détail. Ce que vous dites, c'est quand même, pour l'égyptologue que vous êtes, que les références à l'Égypte sont pour le moins très imprécises, voire même fabuleuses.
C'est une connivence entre le producteur du spectacle et le spectateur. C'est-à-dire que si on vous présente Thaïs, une courtisane qui est devenue sainte, après avoir renoncé à sa vie de débauche alexandrine. Ça suppose ou que le spectateur connaît déjà l'histoire de la vie de cette sainte, ou alors que dès la première scène, la première exposition, il va avoir les éléments pour comprendre. Et quand on parle de l'Égypte, c'est en réalité des Égyptes, parce que c'est l'Égypte autour de la vie alexandrine, ça peut être la vie autour de ses saintes, mais ça peut être aussi le cycle des Cléopâtres. Pour cette courtisane, Thaïs, vous en avez une autre qui est Marie l'Égyptienne, c'est une autre histoire. Et puis, ça peut être une courtisane qui ne va pas se repentir, c'est celle de Pierre-Louis, c'est Aphrodite, et ça va donner l'Aphrodite d'Erlanger en 1906. Donc, comme le spectateur n'est pas forcément à même de connaître toutes ces subtilités, il va falloir que l'exposition dans le livret entre immédiatement dans le sujet. Et puis, au XVIIe siècle, ce sont surtout les dieux qui sont les objets des opéras, les sujets des opéras. Par exemple, pour l'Isis de Lully, j'ai démarré le livre avec celui-ci. En réalité, c'est une allégorie entre les amours de Jupiter Louis XIV, de la belle Mademoiselle de Ludre, c'est celle qui, dans la correspondance de la marquise de Sévigné, est Io Isis, qui est la jalousie de Madame de Montespan, qui est Junon. Donc, l'Égypte est tout à fait là de façon accessoire, pour travestir de la même façon que dans les textes masqués, Memphis, c'est Berlin ou c'est Paris. Mais, vous savez, dans le conte, dans la littérature du XVIIIe, par exemple, quand Voltaire écrit Le taureau blanc pour se moquer de l'intronisation du taureau Apis par le clergé Memphite, on part d'une histoire transmise par les auteurs classiques, et on en fait l'objet d'un conte ou d'une plaisanterie. La littérature du XVIIIe, c'est un enseignement de l'histoire sainte ou un enseignement des auteurs classiques. Et à partir de ça, ça va vous permettre tous les travestissements possibles. L'opéra n'échappe pas à la règle.
Parce que les sources de l'Égypte
sont littéraires.
Sont littéraires, hein, voilà, au XVIIe, XVIIIe siècle, voilà. Littérature ancienne, antique.
Oui, seuls les princes de l'Église et les rois ont des galeries suffisamment étoffées pour donner une première idée de l'Égypte. Sinon, en général, la référence est livresque ou graphique, parce que les peintres, très tôt, ont eu à produire la référence égyptienne. Donc, ils ont copié des statues ou des médailles.
Dans votre histoire de l'opéra, quelle est la toute première référence à l'Égypte que vous ayez notée ?
J'ai préféré démarrer avec l'Isis de Lully, pour rester dans le domaine français, 1677, mais dans les tableaux j'ai donné des exemples bien plus anciens, et dès la fin du XVIe siècle, on a des références précises à Io Isis. Et puis, le cycle de Cléopâtre commence aussi. Il y a une Cléopâtre à Venise en 1653. Je les ai juste signalés, mais je préférais démarrer là parce que l'opéra français est en place. Et j'ai travaillé surtout sur la documentation française. D'abord parce qu'elle est bien classée, les ouvrages et les thèses existent. Et mon travail était d'accéder rapidement à 300 livrets et de travailler sur les livrets pour voir comment l'idée d'Égypte avait progressé pour ce genre. Et puis, habiller ceci avec les décors, les costumes, les accessoires.
C'est bien ça, parce que vous dites que parfois les sujets des opéras peuvent faire référence, parfois juste un court instant, surtout au début, soit à des dieux égyptiens, soit à des personnages, des autorités ou des pharaons. Mais aussi, donc il y a un fil directeur comme ça des personnages, et aussi un fil directeur sous-jacent des décors qui parfois se retrouvent d'un opéra à l'autre, et du coup on s'en inspire pour composer.
Dans la gestion des portants, dans la gestion des éléments de décor, on réutilise des choses. On les fait aller d'un opéra à l'autre, mais ce qu'il y a, c'est que pour certains opéras, l'action ne se passait pas en Égypte. Et elle devient égyptienne parce qu'on réutilise un élément de décor. Mais ce n'est pas valable seulement pour les décors, c'est valable aussi pour les airs, pour les partitions. Et nous avons, par exemple, dans le Barbier de Séville, la reprise d'un Aurélien à Palmyre de Rossini en 1813, et il s'agissait d'une incantation à Osiris. trouver ça dans le Barbier de Séville, c'est énorme.
C'est étonnant.
Et par exemple, lorsque la flûte enchantée, qui est de 1791, sera montée à Paris sous le titre Les Mystères d'Isis, en 1801, avec un nouveau livret de Moret de Chédeville, bah, la partition sera reprise aussi par la Schnitz, et il y aura dedans des airs de Mozart qui ne sont pas de la flûte enchantée. Donc il faut s'apercevoir que ces productions, même à l'Opéra de Paris, vont être très malléables. Elles vont être malléables dans l'histoire que l'on va reprendre, suivant que l'on va mettre un ballet ou pas. On va changer le nom de certains personnages. Et même dans la partition, il va y avoir des emprunts dans l'œuvre même. On va se piller soi-même. Et c'est pour ça que, pour rester dans la flûte enchantée, les Français ne connaîtront finalement la vraie version, la vraie partition, qu'en 1865, avec une traduction qui va revenir au premier texte et qui sera de Nuitaire. Donc avant 1865, à Paris, on ne connaît qu'un travestissement de la flûte enchantée. Or, c'est vraiment l'œuvre majeure pour nous. C'est une œuvre qui a approché une forme d'Égypte, mais ce sont surtout les metteurs en scène qui ont accentué le côté égyptien de la flûte enchantée ou le côté maçonnique de la flûte enchantée. Parce que vous pouvez être devant une version qui gomme les deux aspects. Et des gens sont étonnés, suivant la version qu'ils ont entre les mains, de ne pas voir le Zarastro qu'ils attendent.
Oui, parce qu'il s'agit bien pour la flûte enchantée d'un parti pris, puisque le livret n'indique rien d'égyptien.
Voilà, c'est un parti pris, et c'est là ce qui m'a intéressé, c'est que les opéras sont pour des cours, et on les fait servir à quelque chose, à une propagande. C'est pour ça que c'était intéressant. Vous avez, par exemple, j'ai pris les auteurs classiques et le panthéon égyptien, et puis après, comme thème, j'ai pris la Bible. Et dans la Bible, j'ai pris, par exemple, l'Israël en Égypte.
Donc, vous dites qu'il y a bien, on s'en doutait, mais là, vous le mettez vraiment en relief, cette connivence entre égyptologie, franc-maçonnerie et inspiration des décors, enfin, tout. Il y a des personnages clés qui jouent un rôle. Hein,
c'est-à-dire que la clientèle de l'opéra, c'est une production qui coûte cher. Il faut donc un mécène. Et cette clientèle est elle-même partisane des loges et fréquente les loges ou les protège. Donc, à partir du moment où vous avez des intérieurs qui sont organisés autour de mobilier égyptisant, sur lesquels on a ajouté un sens. On va retrouver dans le spectacle ceci. Et autour de la flûte enchantée de Mozart, il y a tout un ensemble d'œuvres, autour de Goethe, autres francs-maçons aussi, qui vont ou moquer Cagliostro, ou insister sur tel aspect de ce que les francs-maçons essayent d'imposer, c'est-à-dire qu'ils voudraient se rattacher à l'Égypte, berceau de la science et des initiations. Pour bien montrer la place des metteurs en scène, vous avez par exemple, toujours pour la flûte enchantée, donc la flûte enchantée, Vienne, 1791, regardons la mise en scène à Berlin, par Schinkel. On est en 1816. Il va représenter un sphinx sur un socle, avec une porte sous le socle, parce que les francs-maçons sont persuadés que les initiations dans l'Antiquité se faisaient sous le sphinx, dans des salles souterraines. Et on s'aperçoit que le fait même de représenter ce sphinx avec cette porte en dessous, c'est la traduction graphique d'une idée qui est véhiculée chez les francs-maçons. Et jusque les années 1984, lorsque tous les travaux auront été faits autour du sphinx, on sera sûr qu'il n'y a jamais eu de salle souterraine. Donc toute la littérature et toutes les élucubrations autour des initiations dans les chambres souterraines du sphinx tombent. Mais les œuvres restent.
Nous allons entendre tout de suite un extrait, évidemment, de la flûte enchantée. Michel de Wechter, dans cette multiplicité de mises en scène avec ces influences égyptiennes, il y a, je ne sais pas si on dit influence égyptienne ou égyptologue ou égypto-quoi.
C'est-à-dire qu'on a créé, au retour de l'expédition d'Égypte, une mode égyptienne tous azimuts. C'était à la fois dans l'architecture, dans les objets de décoration, mais on ne l'a pas assez remarqué, c'était aussi dans les arts lyriques.
L'expédition d'Égypte.
Au retour. Vous avez, par exemple, le pianiste de l'empereur aux Tuileries, était tout simplement, pendant l'expédition de Bonaparte en Égypte, Rigel était l'un de ses musicologues. C'est lui, entre autres, qui s'est occupé avec Protin de l'organisation des fêtes révolutionnaires au Caire. Mais lorsque vous vous apercevez que ce Rigel, Henri Rigel, est le fils du compositeur, qui s'appelle aussi Henri Rigel, d'Israël en Égypte, et que cet Henri Rigel est le patron du concert spirituel, vous comprenez que vous êtes dans le milieu maçonnique autour de Bonaparte. Protin, qui est aussi l'organisateur de ces fêtes, qui est membre de la Commission des sciences et arts en Égypte, va, au retour, être l'un des patrons de l'atelier de décoration de l'opéra.
Jean-Constantin Protin.
C'est quoi Protin, fils. Le père était déjà là. Et quand vous vous apercevez que ce Protin est membre de la loge maçonnique Le Grand Sphinx, qui a été fondée à Paris en 1805, et que vous regardez que Degoti, qui est l'un des patrons des décors de l'opéra, Isabey, sont aussi à cette loge du Grand Sphinx, que Percier, le Percier de Percier et Fontaine, qui organise la propagande napoléonienne, est aussi membre du Grand Sphinx. Là, vous savez que vous avez une clé. Et vous apercevez que dans le style Retour d'Égypte, qui est orchestré autour de la propagande napoléonienne, n'est pas sans lien, pour le dire de cette façon-là, avec la franc-maçonnerie. C'est comme ça que vont naître deux choses. Un, la tradition que Bonaparte a été initié en Égypte à la loge Isis, que l'impératrice Joséphine est la patronne des loges féminines, des loges d'adoption. Et puis, lorsque vous verrez en 1812 apparaître dans les armoiries de la ville de Paris, Isis, à la proue de la barque des armes de Paris, de la commission Petit Radel, vous comprenez que c'est tout un ensemble de francs-maçons qui est autour de Napoléon, des arts de l'Empire, et bien entendu, tout ceci, c'est de la franc-maçonnerie qui veut se rattacher à l'Égypte. Et ça explique pourquoi le style Retour d'Égypte, même si en réalité la mode égyptisante dans les objets de décoration et dans l'architecture est antérieure, on en a beaucoup d'exemples sous Louis XV, hein, c'est au retour de la campagne d'Égypte que l'on va, pour complaire à Bonaparte et à son ministre des Beaux-Arts, au Jacques Lang de l'époque, qui est vivant de nom. C'est une autre pointure, je l'accorde, mais c'est pour ça que l'Égypte va être l'Égypte et la franc-maçonnerie égyptienne, les différentes loges, il y a les Sophisiens, il y en a d'autres, ils sont présents à l'opéra. Et à l'opéra, on voit que membres des loges égyptiennes, des gens qui n'ont pas fait la campagne d'Égypte, mais que c'est le mode de ralliement.
Donc, Égypte et franc-maçonnerie, il y a aussi une autre source d'influence qui concerne l'Égypte, c'est tout simplement le texte biblique qui fait référence, même, il y a évidemment l'époque, toute l'histoire de Moïse, il y a évidemment Joseph et sa reconnaissance par ses frères, etc. Et puis, il y a un épisode très court, mais qui a fait beaucoup parler du passage de la famille sainte de Joseph, Marie et le Christ qui sont, pendant l'enfance du Christ, qui passent en Égypte. Tout ça a donné lieu à une littérature musicale assez prolixe.
Oui, justement, pour Joseph, on a Méhul, qui est un compositeur qu'affectionnait particulièrement Bonaparte, le Joseph de Méhul est de 1807. On a bien sûr le poème de Baour-Lormian dès 1806. On aura, avec Scribe en 1850, l'enfant prodigue. Et bizarrement, lorsque vous reprenez le texte biblique, vous apercevez qu'il n'est, dans l'enfant prodigue, jamais question de l'Égypte.
Oui, c'est très
et c'est la réutilisation des décors qui a amené la situation de certaines scènes à Memphis. Et puis, bien entendu, la tradition a voulu trouver des lieux où la famille se serait arrêtée, mais ça, c'est dans le temps que la légende s'est construite. Et puis, vous avez bien entendu, pour Joseph, l'épisode de Madame Putiphar, c'est en réalité l'adaptation du conte des deux frères. Dans une famille, on ne touche pas à la femme de son frère et on va construire autour de ce crime, alors que vous devez épouser la femme de votre frère décédé. Hein. C'est bizarre comme système. Et Putiphar va donner surtout le ballet. De 1914, avec la musique de Richard Strauss. Et pour l'Exode, bien entendu, c'est Moïse de Rossini qui va cristalliser les choses dans les deux versions, la version italienne à Paris dès 1827, et c'est une œuvre qui sera régulièrement jouée à l'opéra, reprise, et qui va donner lieu à de nombreux décors et surtout des gravures.
Donc un texte biblique plus ou moins suivi avec fidélité, on en fait un peu ce qu'on veut. Il y a eu même certains compositeurs qui avaient une réticence à utiliser un texte biblique qu'ils avaient peur de détourner, ou d'autres qui l'ont détourné mais totalement sciemment.
Oui, et puis vis-à-vis de l'argument biblique, il y a le texte de Napoléon qui voulait qu'on ne présente pas la Bible sur une scène. Vous savez, le Concordat n'est pas arrivé par hasard, mais comme c'est lui pratiquement qui a imposé Joseph de Méhul, c'est un petit peu contradictoire.
Donc on le voit au fur et à mesure de l'histoire, les références à l'Égypte deviennent de plus en plus précises, de plus en plus historiques, quelque part ça devient moins livresque, on va dire. Et surtout depuis le retour de Bonaparte de l'expédition d'Égypte, et puis ensuite...
Le déchiffrement.
Le déchiffrement, évidemment... puis le canal de Suez. Tous ces événements jalonnent aussi les livrets des opéras et inspirent des choses de plus en plus précises, historiquement.
Voilà, si vous voulez, jusqu'au déchiffrement, on était tributaire des auteurs classiques. À partir du déchiffrement, on va commencer à avoir accès aux sources indigènes. Et puis l'archéologie, Mariette va ouvrir le service des antiquités égyptiennes en 1858. De nouveau, temples vont être fouillés, de nombreux monuments vont sortir de terre, et on va de mieux en mieux connaître l'Égypte. Les musées en Europe vont s'organiser aussi, certains enseignements vont se mettre en place. Donc, cette image très artificielle qui était proposée par la scène va devoir s'adapter. Et là, on a un texte de Théophile Gautier qui explique que les travaux d'archéologie permettent aux décorateurs, aux costumiers, d'affiner l'image qu'ils nous proposent. Et puis, avec l'Égypte, on va franchir un pas supplémentaire, c'est quand un égyptologue va donner à un compositeur l'argument de son livret. C'est le cas avec Mariette, pour la commande par le Khédive de l'opéra pour l'inauguration du canal de Suez, donc Aïda. Et là, on va avoir non seulement des noms qui vont être fournis, des situations, mais après... On va avoir aussi un regard sur les dialogues. Verdi va chercher, mais on ne peut pas lui transmettre de tradition parce que nous avons des instruments muets encore à cette époque. Mais par contre, pour tout ce qui est le détail de costumes, le détail de bijoux, là, on a fait un progrès énorme. Ce qui est formidable, c'est que cet opéra archéologique va satisfaire les Égyptiens qui finalement vont s'y reconnaître.
C'est... Première représentation d'Aïda en Égypte, d'ailleurs, c'est pas
oui,
un hasard.
Oui, au petit théâtre qui a été construit pour l'inauguration du canal. Malheureusement, Verdi a traîné et c'est seulement le 24 décembre 1871 que la première d'Aïda en Égypte sera donnée. Et c'est l'un des musiciens de cette première qui donnera l'hymne vice-royal égyptien. Donc les Égyptiens vont déjà se reconnaître dans cet opéra. Et ensuite, en 1912, ils vont même représenter Aïda aux pyramides. Lorsque le grand sculpteur Mahmoud Mukhtar, qui est le plus grand sculpteur égyptien moderne, va présenter au Salon des artistes français en 1914 son chef-d'œuvre, c'est une Aïda. Sayed Darwish, le grand compositeur égyptien, va adapter une Aïda. En 1923, quand il décède, elle n'est pas terminée, mais Abdel Wahab la terminera.
C'est tout ce que vous appelez le choc en retour.
C'est le choc en retour. Et par contre, il faudra attendre les années 1950 pour qu'une Égyptienne interprète le rôle-titre. Et on monte Aïda dans le temple de Louxor, les Égyptiens s'y reconnaissent. Or, il n'y a pas plus artificiel que ce que nous a proposé Mariette. C'est l'un des plus mauvais opéras de Verdi. Mais cet opéra a une telle charge. C'est le premier péplum, finalement. Et lorsque l'on a commencé à ouvrir, dans les années 1912, les arènes de Vérone, on a donné un cadre à cet opéra. On a donné un cadre archéologique. Et là, on a eu des productions qui ont complètement changé les choses. Et ce qui pouvait être presque intimiste sur le petit théâtre du Caire, qui faisait 850 places, tout petit théâtre à l'italienne, dans les arènes de Vérone et après au Stade de France, avec tous les figurants, les animaux en 2000, on arrive à des productions qui n'ont plus rien à voir, même s'il reste la partition. Mais le choc en retour, c'est lorsque les Égyptiens acceptent ce qui est censé les représenter, le traduisent en arabe et en font l'un de leurs spectacles. Ils l'ont fait pour Aïda, ils l'ont fait pour la Cléopâtre de Massenet, et ils l'ont fait aussi, ils ont adapté Thaïs. Donc, les trois époques. L'époque, si vous voulez, pharaonique avec Aïda, l'époque ptolémaïque avec Cléopâtre, et l'époque chrétienne avec Thaïs. C'est quand même incroyable qu'une image d'un pays à l'opéra soit passée à ce point dans la culture du pays en question.
Avec une bonne dose de second degré.
Non, je crois pas. Je crois pas. Maintenant, ça pourrait être du second degré quand on regarde la production d'Aïda en 2004 à Monte Carlo, où on déplace l'action dans l'Égypte de 1920. Mais on conserve les dialogues et la musique de Verdi.
Un anachronisme qui ne vous convient pas, on dirait.
Non, puisque les producteurs de ce spectacle nous expliquent que c'est pour échapper à un orientalisme de pacotille, pour créer un anachronisme à côté. Et l'Égypte du nationalisme, hein, puisque les années 1920, c'est ça dont il s'agit, n'a rien à voir avec l'histoire qui arrive à Radamès et à cette rébellion des Nubiens. Ça n'a strictement rien à voir. Mais il y a de la part de l'époque moderne, et dans le cas de l'Égypte, c'est difficile à passer, une appropriation. En contrepoint de l'Égypte et l'opéra, moi j'ai vécu comme une espèce d'immense carnaval lyrique, le numéro de Jean-Michel Jarre en 2000 aux Pyramides pour le passage à l'an 2000. On avait oublié qu'on était dans une nécropole, une des grandes nécropoles du monde antique. On ne peut pas faire n'importe quoi en se servant de symboles qui ont marqué l'histoire et la réflexion du monde. Et l'Égypte a transmis une image et les metteurs en scène s'en servent et s'amusent à la distorsion maximale. On n'y retrouve pas l'Égypte. Et surtout, l'égyptologue s'amuse parce qu'il se demande jusqu'où on peut aller. Et l'Égypte n'est que le prétexte à faire venir les foules. Et c'est ça. Est-ce que, à un moment, nous avons manqué quelque chose pour que cette Égypte nous échappe à ce point? Nous essayons de plus en plus de pénétrer la pensée égyptienne. Et chaque jour, les médias ou tous les organes de diffusion nous proposent une Égypte qui est le plus éloignée de ce que nous essayons de retrouver.
Michel de Wachter, le dernier opéra en date qui fasse une référence cette fois-ci très explicite à l'Égypte, c'est Akhenaton de Philip Glass. C'est vraiment tout un travail qui vous paraît satisfaisant, vous, en tant qu'égyptologue ?
Non, bien entendu. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que la mode du monothéisme fait qu'on a focalisé sur Akhenaton depuis des années. Le nombre d'ouvrages, d'articulés,
qui ne sont que 17 années de règne, en fait, au milieu de millénaires.
Oui, et on rapporte tout à soi. C'est un phénomène que nous comprenons très mal. Et en plus, il faut quand même le rappeler, beaucoup de choses ont été détruites de cette époque. On ne comprend pas l'acharnement qu'il y a à vouloir stabiliser le monothéisme à l'époque d'Akhenaton. Donc, ce que Philip Glass a voulu faire, lui et ses trois aides pour le livret, c'est l'opéra du monothéisme. Vous savez, la religion égyptienne est monothéiste dans son essence et polythéiste dans ses manifestations. C'est comme notre Dieu unique et nos saints intercesseurs. Il y a dans l'archéologie égyptienne des petits règnes, comme le règne de Toutankhamon, comme l'époque d'Akhenaton, qui sont vraiment ramassés dans le temps et qui font le maximum de la bibliographie actuelle. Ça intéresse, mais les égyptologues n'y trouvent pas leur compte. Une fois que vous avez votre liste de documents, c'est sec le commentaire qui peut en être fait. On fait un opéra sur cette époque, on est même obligé à un moment d'introduire des touristes sur scène, c'est une caricature. Je préfère ce que fait, par exemple, Bondeville pour refaire une Cléopâtre dans les années 70, en repartant du texte de Shakespeare. La création est plus intéressante. Alors, si le fait de déclamer en plusieurs langues, pensez aux spectateurs, des textes d'Akhenaton ou des textes contemporains, je crois qu'on est dans un autre lieu et on est dans un autre opéra. Et on est surtout dans l'œuvre de Philip Glass, c'est une trilogie. Et j'ai peur que l'on fasse fuir les spectateurs de l'opéra. Je suis très critique sur l'Akhenaton de Philip Glass.
À vous entendre, monsieur Michel de Wachter, plus le temps passe, plus il est difficile de s'inspirer d'une Égypte dont on connaît de plus en plus de choses et de détails. C'était beaucoup plus facile au XVIIe siècle quand on s'inspirait d'un bout de momie qui était dans un...
C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas affiché une volonté d'authenticité ou archéologique. Le travail de Philip Glass, c'est une redondance sur le scénario de Mariette. On part d'une recherche absolument exhaustive, on vous la présente comme telle, et non, c'est pas de l'égyptologie, c'est pas une leçon. Pour moi, c'est un contresens. Quand on traduit les costumes, enfin la mise en scène, bon, je sais pas. Pour moi, c'est un opéra qui ne me satisfait pas.
Pour élargir le débat, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire de l'ethnomusicologie sur la période ancienne de l'Égypte ?
Sur la période ancienne de l'Égypte, difficilement, mais les bases ont été très très bien données. Dès l'expédition d'Égypte, Villotto, musicographe, a été attaché à l'expédition et a fait la collecte des instruments, autant pour la musique ancienne que pour la musique arabe. Nous avons eu quelques grands musicologues allemands, comme Hans Hickmann, qui ont travaillé sur les collections de monuments anciens. Bon, vous connaissez bien entendu les Saint-Simoniens et Félicien David. Félicien David qui se promenait avec son piano et puis qui, lorsque la cange s'arrêtait, composait et était inspiré par le désert. Ça, c'est une chose. Mais vous avez par exemple un homme comme Saint-Saëns qui a fait 14 voyages en Égypte et qui a été fortement inspiré par la musique égyptienne. Mais autant la musique égyptienne de son époque, la musique arabe, la musique de l'Égypte de la fin du 19e siècle, que par la volonté de produire un opéra égyptien. Et lorsqu'il, en 1898-1900, a le projet de faire Isis, il s'adresse à un égyptologue, Émile Amelineau, et il lui pose des questions de musicologie sur la musique ancienne. Donc là, on aurait à la fois un compositeur qui connaît parfaitement l'Égypte, ce qui n'était pas le cas de Verdi, et un égyptologue qui est un bon fouilleur aussi, Amelineau c'est quand même le fouilleur de la ville d'Abydos, qui ont essayé, et ils s'y sont cassés les dents. Ça n'a pas abouti. Mais là, c'est un véritable projet. Et l'ethnomusicologie naît à peu près à cette époque. On a à la fois des instruments, le vocabulaire ancien autour de ces instruments, des représentations de bas-reliefs ou des figures de papyrus, mais on n'a pas de musique notée. Donc ça restera toujours de l'archéologie pour la musique ancienne, mais petit à petit, on propose quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'il est advenu de ce projet de Camille Saint-Saëns ?
Le manuscrit existe et surtout la correspondance avec Amelineau. Et puis aussi, Camille Saint-Saëns fréquentait Loret, qui est le premier égyptologue, qui était aussi un violoniste. Nous avons, avec le dépôt Saint-Saëns à Dieppe, de nombreux documents écrits. Il y a un début de partition pour cette Cléopâtre, mais c'est resté à l'état de projet.
Merci beaucoup Michel de Wachter. Je rappelle que vous êtes égyptologue, auteur de nombreux ouvrages sur l'Égypte et notamment l'ouvrage qui nous concerne aujourd'hui, L'Égypte et l'Opéra de Jean-Baptiste Lully à Philippe Glass. Où est-ce que l'on peut trouver cet ouvrage qui est assez rare ?
Alors, ou auprès de l'éditeur Alec Tour, Le Capucin, sinon auprès de Marie-Noëlle Ménard, le conservateur du musée de Carcassonne. Je travaille avec elle depuis la belle exposition d'Isis, ou à Roanne, au musée d'Echelette.
Un ouvrage que je vous recommande très très fortement. Merci beaucoup Michel de Wachter, à bientôt. Questa è la mia vera, questa è la mia vera.